regardez, donc la dernière fois, c'est que. C'est que la tentation, notre vie spirituelle est perturbée à cause des tentations. Mais ces tentations, nous les percevons au niveau de petites incitations ponctuelles qui s'attaquent au fond, aux parties. On sent qu'une tentation, c'est rien du tout quelque part. Et on n'arrive pas à comprendre le mode de la tentation. Pourquoi ? Parce que on ne saisit pas la nature de la tentation, l'origine de la tentation, le lieu de la tentation et l'intentionnalité profonde de la tentation. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, on a regardé l'intentionnalité profonde de la tentation. Qu'est-ce qui détermine la tentation en elle-même ? C'est la métatentation. Et il y a trois métatentations. La première métatentation, c'est celle que l'Écriture nous révèle. Personne ne peut, nous ne pouvons pas donc comprendre ce que c'est que la métatentation ou la tentation sans la révélation. Dieu seul peut nous dire exactement où la tentation, ce qu'est la tentation en elle-même. On pourrait presque dire que le démon lui-même ne sait pas ce que c'est exactement la tentation. Hein? C'est surprenant, hein? Et Dieu seul, ce que c'est que la tentation. Dieu seul est maître de la tentation. Dieu seul. C'est pour ça qu'on dit, ne nous laisse pas submerger sous la tentation. Ne nous laisse pas couler dans la tentation. Voyez. Alors les trois métatentations qu'il faudrait regarder, c'est une métatentation, c'est là où la tentation est tout à fait elle-même quant à la substance. Donc, alors, elle est tout à fait elle-même quant à la substance parce que elle va atteindre tout le monde. En étant touché, toi, et en tombant, toi, c'est tout, c'est l'universalité du monde, de l'humanité qui va être éclaboussée. Vous voyez ? Donc, la première métatentation, celle qui éclabousse tout le monde, c'est le péché originel, la tentation originelle. Il y a la tentation originelle. On en a vu un aspect samedi, voyez, cette tentation originelle. Samedi, puisqu'on a regardé l'éclatement de l'un, c'était très très intéressant de voir dans l'éclatement de l'un le contexte à l'intérieur duquel la tentation s'introduit, voyez, la tentation originelle d'Adam s'introduit dans cette espèce d'advenue de la liberté passive d'origine, qui est la nôtre. Bon, c'est ce, pour ceux qui n'étaient pas là, tant pis, vous aurez des cassettes plus tard, n'est-ce pas ? Bon, la tentation originelle. La révélation nous explique ce que c'est que cette tentation, et donc il faudrait regarder comment Adam et Ève, et leur unité, leur humanité intégrale, a été frappée par la tentation, de manière qu'elles viennent habiter, c'est-à-dire tout être humain. La deuxième tentation, c'est la tentation qui nous est révélée dans la Haggadah de la deuxième alliance. C'est le Christ qui est tenté. Vous voyez ? La tentation n'implique pas nécessairement une chute, puisque le Christ est tenté et il n'y a pas de chute. Mais si, or la tentation, quand elle atteint l'aspect du christianisme en nous, et lorsque c'est le christianisme en nous qui est atteint, le Christ en nous qui est visé par la tentation, eh bien on peut le comprendre grâce à ce qui se passe et ce qui nous a révélé dans la tentation du Christ. La tentation du Christ au désert. Donc, le temps du carême, vous le savez, est très important parce que on voit que Jésus part pendant 40 jours au désert et du coup il est tenté par le diable. Alors il y a plein de gens qui disent, bon voilà, surtout ne rentrons pas au désert, c'est-à-dire ne prions pas, ne rentrons pas dans la pénitence, dans l'abstinence, dans la tempérance, sinon on va avoir une de ces choses, une de ces luttes contre le démon. Or nous demandons tous les jours, ne nous soumets pas à la tentation. Donc on ne va pas demander tous les jours, ne nous soumets pas à la tentation, et rentrer dans le prière et la pénitence, qui fait que justement, au terme de cette prière et cette pénitence, boum, on va être confronté à la tentation. Alors, il faut savoir, tu demandes de ne pas être soumis à la tentation, ne nous soumets pas à la tentation, et puis boum, et tu fais le carême, justement, et le carême, on le voit bien. Vous voyez ? Ça, c'est une mauvaise interprétation, vous le savez bien. on fait le carême, on fait prière, désert, solitude, pénitence. Donc mémoire de la Haggadah, vous voyez, par la mémoire. On apprend par cœur, dans le souffle de notre chair, de notre nefesh, il y a, eh bien, nous apprenons à faire pénitence dans l'oraison surnaturelle et la transformation de l'âme et du corps. Et à ce moment-là, on est fort contre la deuxième métatentation. Parce que si le Christ a voulu être confronté à la tentation, au bout de 40 jours de prière, de solitude, de désert, et de pénitence, c'est pour nous montrer que si on ne fait pas prière et pénitence, il n'y a aucune chance de pouvoir vaincre la tentation chrétienne. Attention, la tentation, la deuxième métatentation. La troisième métatentation, qui nous est révélée dans l'Écriture, donc nous l'avons vu la dernière fois, c'est dans l'Apocalypse, c'est la tentation finale. La tentation finale concerne l'universalité humaine. L'intégralité de l'humanité tout entière est visée. C'est une tentation contre la gloire de Dieu. Là, il reste probablement plus que le désir, Maranatha. La tentation voudrait qu'on n'ait plus aucun désir de la gloire de Dieu, du ciel. Aucun désir de contemplation. Vous voyez, ça elle est terrible, cette tentation-là. La tentation-là, tentation de la bête. Alors, elle est face à la femme. Elle est face à la femme sur le point d'enfanter. On voit bien la grande tentation, la métatentation. La métatentation. Alors, nous, on est dans une génération très géniale, parce qu'on est dans une génération où on retrouve ce sens très très fort de notre conception. C'est très à la mode, retrouver la manière dont on a été conçu par nos parents, le revivre, la période embryonnaire, cette période d'avortement, etc. On est hyper sensibilisé à ça. Et donc il faut qu'on retrouve justement, c'est vrai, dans ces périodes où les enfants sont... avorter au troisième mois, cinquième mois, neuvième mois, douzième mois, ou quinzième jour, hein? Oui, oui. Eh oui. Eh ben, il y en a des, quand même, parce que peut-être qu'on peut le faire, tu sais, le jour de la naissance, ou un jour avant, on peut le faire aussi 15 jours après, tu sais. Je vois pas la différence. Tu vois la différence, hein? Je vois pas la différence. Enfin, si je vois la différence, c'est que c'est beaucoup plus grave avant. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des... C'est par centaines de millions, milliards même, qu'il y a ces êtres humains qui, crient, comme le sang d'Abel, vous savez, comme le sang d'Abel, qui crie. Alors du coup, nous, on entend, on est les vivants, nous, sur la Terre, et donc on entend ce cri de milliards de contemporains, si tu veux. Et ça vient frapper quoi? Ben, ça vient frapper notre sensibilité... Notre sensibilité embryonnaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on est très sensible à ça. Il y a, c'est probablement une très très grande, c'est plus que probable même, non seulement probable, c'est évident, que la grande partie de nos problèmes personnels ou psycho-spirituels et d'ordre surnaturel, et puis du point de vue du désir du ciel, si vous voulez, de sainteté, bon, s'ils sont, j'allais dire, bouleversés, blessés, et paralysés, inhibés, eh ben, c'est probablement à cause précisément de cette espèce de d'influence que le cri de l'humanité avortée, vous voyez, a sur nous. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne voit pas d'où ça vient. On ne les voit pas, hein, les enfants avortés, pourtant ils crient. Hein. Alors du coup, dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'union à la gloire de Dieu, ça joue un rôle très très important. Et il y a un appel très très fort dans notre vie spirituelle à intégrer dans notre charité fraternelle, non seulement ceux qui sont proches de nous, mais ceux qui sont encore plus proches de nous, puisqu'ils nous font crier, j'allais dire, dans les endroits où on est passé et où ils crient. Donc quelque part, Donc on va retrouver, on doit passer le point de vue de l'angoisse personnelle et assumer aussi l'angoisse universelle. Jusque dans la chair, vous voyez, notre innocence est crucifiée et on rejoint l'innocence crucifiée et c'est à nous de la faire triompher, cette innocence crucifiée universelle, dans le triomphe, dans la gloire du Maranatha, du retour du Christ. Bon, ça c'est tout un aspect à voir, il y a trois métatentations. Le Saint-Père donc nous dit, vous le savez, alors on est dans une génération très intéressante parce que toutes ces tentations, vous voyez, il y a des liens, hein, voyez, la tentation finale c'est par rapport à la fécondité, à l'origine d'une humanité qui peut engendrer le retour du Christ. Donc il y a un lien, c'est évident qu'il y a un lien entre ces trois métatentations. Donc c'est dans l'écriture qu'on peut voir quelle est la détermination substantielle de ce que c'est qu'une tentation en elle-même, ce qui échappe à Satan dans le mystère de la tentation, qu'il utilise de manière, au fond, qui lui est extérieure. Il l'utilise comme on pousse une boule. Tandis que nous, la tentation, il faut qu'on la saisisse de l'intérieur pour la faire exploser, vous voyez. Cette espèce de déflagration, cette déflagration de l'atome, vous voyez. Ça appartient au pouvoir de l'Église. Le pouvoir de la lutte contre la tentation, c'est de faire en sorte que cette tentation, le démon, il peut la prendre que de l'extérieur. Nous, on la prend de l'intérieur, et hop, ça fait, vous savez ce que c'est que la bombe atomique, c'est qu'on fait, c'est qu'il y a un phénomène de chaleur, de chaleur, de chaleur, de chaleur, millions, 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 millions de kilowatts de chaleur, qu'on introduit dans une boule de matière, une boule d'atome, et alors du coup la chaleur est si intense que... Exploser, ça fait éclater, ça disperse partout, si vous voyez, les atomes dans des échanges, j'allais dire, d'électrons, protons, neutrons qui sont différents, qui sont plus le même atome. Alors oui, c'est pour ça. Si c'est de l'uranium, c'est plus facile que de l'uranium. L'uranium, c'est la tentation facile. Vous voyez, plutonium, uranium, c'est facile à faire exploser comme tentation. Ce serait pas mal de faire, vous voyez. Comment faire une bombe atomique avec l'uranium? Bon, la petite tentation, facile. Vous voyez, facile, faire une bombe atomique. Et c'est notre rôle, vous voyez, de faire tellement de chaleur, tellement de chaleur, tellement de chaleur. Quand on est dans la tentation, maintiens ton esprit en enfer, mais ne désespère pas. Maintiens ton esprit en enfer. Maintiens ton esprit en enfer. N'essaie pas de sortir de l'enfer, de la tentation. Mais ne désespère pas. Avec beaucoup d'amour, tu restes là. Et tu aimes d'être là. Parce que le Christ revient. Tu l'aimes trop, le Christ, tu vois. Maintiens ton esprit. C'est la parole de Jésus à Silouane. Vous savez, à Saint-Silouane. Maintiens ton esprit en enfer. Ne désespère pas. Alors tu es à l'intérieur de la tentation à ce moment-là, si tu vis de la résurrection, cette tentation, si tu vas jusqu'au bout de l'amour, à ce moment-là, tu obtiens libération pour tous les hommes. C'est l'avantage de la métatentation, n'est-ce pas? Parce que les petites tentations, d'accord, une petite tentation, elle essaie de pénétrer, ça c'est autre chose, ça c'est la petite pétanque avec le diable, ça c'est... C'est la petite tentation, vous voyez. C'est moins intéressant. C'est amusant, quand même, parce qu'il y a la tentation au niveau des pensées, la tentation au niveau des émotions. Il y a différents types de tentations. La tentation au niveau de l'imaginaire, la tentation... Donc, pourquoi... Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si vous avez... J'ai peur qu'on n'ait pas le temps, même cette année, de le faire, ça. C'est dommage. Bon, on fera ça au TTT2, peut-être. Ça, c'était TT1 cette année, hein. Tentation, n'est-ce pas? Tentation. Voilà. TT1, c'est la première année. Hein. TT1. Voilà. On va suivre le fil. Alors, pour comprendre quand même, là. Nous, je suppose que ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse aussi, c'est pas seulement de comprendre ce que la révélation nous dit du noyau, enfin du lieu. Le lieu de la métatentation, c'est l'enfer. C'est l'enfer qui détermine le cœur de ces, toutes ces tentations. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est tous les modes de l'enfer. Le Christ, lui, est au milieu de cet enfer, et il descend dans notre péché, et il subit cette tentation. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Gethsémani. Vous voyez, quand la tentation du Christ se termine, il a vaincu toutes les formes de la tentation, et comme il l'a vaincu, il suffit qu'on se mette avec lui, et toutes les formes de la tentation, si on le vit avec lui, si on souffle le nom de Jésus, de l'intérieur, si notre corps s'imbibe de la présence vivante, brûlante, amoureuse de Jésus, quoi, physiquement, vitalement, lumineusement et surnaturellement, s'il est présent dans tout notre corps, notre âme, notre cœur, notre esprit, toutes les tentations, il nous donne la victoire sur toutes les tentations, de l'intérieur même de la tentation. Mais ça, c'est parce que lui-même, dans cette métatentation, l'a vécu. Donc, ça nous est donné sans combat. On n'a pas besoin de lutter. C'est ça l'avantage de connaître les métatentations, parce qu'on comprend le processus. On comprend le processus par lequel on ne peut plus avoir être troublé par Jésus. C'est sûr que c'est l'aspect le plus intéressant de cette lecture-là. Mais ce qu'il faudrait regarder, c'est le champ de bataille. Donc la deuxième chose qu'il faudrait regarder, pas seulement la substance de la tentation, qu'on regardera à l'espace suivant, parce que là j'attaque pas là parce que j'aurai pas eu le temps de même commencer. Donc c'est peut-être regarder le champ de bataille. Il y a un champ de bataille en nous, c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, on va être le champ de bataille de cette lutte à mort, hein. C'est une lutte à mort, c'est pas une lutte par rapport à la mort de notre vie, c'est une lutte par rapport à la mort de la vie, de toute vie, de la vie sensitive en nous, de la vie animale en nous, de la vie, de toute vie. Il faut vraiment, le démon veut tout détruire, tout, il veut tout détruire, la vie éternelle bien entendu aussi. Alors, ce champ de bataille, c'est ce qu'il faut regarder. C'est nous, c'est en nous que ça se passe. C'est nous qui sommes l'objet de cette tentation. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir, c'est que Dieu, quand il nous a créés, je vais essayer d'exprimer sous forme de cercle, il nous a créés, j'allais dire, dans un acte éternel, dans un instant éternel. Il est certain que l'adoration, en raison de cela, l'adoration sera le premier grand moyen d'échapper à toutes les formes de tentation. D'ailleurs, vous verrez, on verra que dans l'Écriture, toutes les métatentations sont à l'intérieur de l'exigence de l'adoration. On est créé dans un instant éternel, originel, et du coup Dieu est présent, il est Père, Fils et Saint-Esprit, et il est vie éternelle, Père, il est contemplation, Fils, il est amour, Saint-Esprit. Et donc l'instant éternel dans lequel Dieu vient, j'allais dire, se mettre dans un point de sa création, qui est nous, un petit point, de la poussière avec du sang, de la poussière avec de la terre rouge, Adam, n'est-ce pas? Alors, à cause de ça, il vient tout entier se réfugier là, et il organise les électrons, les atomes et les molécules, n'est-ce pas, en fonction de ce qu'il est, lui. Il nous crée à l'image et à sa ressemblance. Et notre corps, voyez, est organisé en fonction de la très sainte Trinité. C'est très curieux, d'ailleurs. Il nous crée esprit. Nous sommes créés avant, si vous voulez, qu'il y ait nos membres, notre vie psychique, ce qu'on ressent, etc. Avant ça, primordialement. Et encore maintenant, c'est ça, numéro un. Il faut toujours aller au cœur même, hein, sinon... Si on n'habite pas là, la tentation, c'est pas la peine, je veux dire. Bon, et là, il nous crée esprit. Donc nous sommes fabriqués extase. Nous sommes fabriqués assimilation. Nous sommes fabriqués contemplation. Nous sommes Nous sommes cette capacité incroyable de nous nourrir de l'intérieur des réalités les plus infinies, les plus absolues, les plus sans limites. Ça peut venir, nous, notre pauvre intelligence peut assimiler Dieu et le contempler. Et nous commençons par cette contemplation. Et cette contemplation demeure, parce qu'une fois que tu as contemplé une fois dans un instant éternel, ça traverse tous les instants postérieur de ta vie jusque dans la vie éternelle. Donc, en ce moment, vous êtes en train de contempler Dieu, sachez-le bien. En ce moment, on est en extase. Ah, de manière fondamentale, mais peut-être pas de manière périphérique, mais de manière fondamentale. En ce moment, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils. Nous sommes source. Nous sommes source, nous sommes centre, nous sommes origine. Nous sommes, c'est difficile, nous sommes mémoire. Vous voyez, nous sommes souffle, nous sommes vie. La source de vie dans le monde ne vient pas de Hubble, de ce que Hubble perçoit, là, le centre Big Bang. La vie ne vient pas de là-bas. Ça, c'est une philosophie évolutionniste qui dirait ça, c'est que la vie est venue progressivement de Hubble, non pas de Hubble, du Big Bang. Mais, ça est venu comme ça, la vie est venue comme ça. Enfin, à ce moment-là, ce n'était pas de la vie, c'était des dispersions de matière, puis des phénomènes de concentration d'énergie, du feu quasi infiniment flamboyant, des expansions, des productions d'hélium, hydrogène, etc. Vous lirez le petit feu et lumière de ce mois-ci, vous verrez, c'est très, très amusant. Et avec un article du Père Philippe que je trouve très amusant, qui dit « L'homme ne descend pas du singe, l'homme descend des étoiles. » L'homme descend des étoiles. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est pas grave. Il ne descend pas plus du singe que des étoiles. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est un autre problème. Mais c'est... Moi, je ne descends pas des étoiles. Je viens de Dieu. Ça, vous me direz, ça n'implique pas. Dieu a saisi quand même dans la nature de la poussière. Vous voyez ? Mais ça ne détermine rien. La poussière, la matière qui fait l'être humain est une indétermination. Donc, on ne peut pas en descendre. La matière par elle-même est indéterminée. Bon, ça va, vous voyez, vous savez pas ce que ça veut dire. Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, indéterminé. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, l'indéterminé. Il y a des gens qui sont, si vous voulez, il y a des gens qui sont déterminés. Ils sont debout. Marie, par exemple, Jésus, ils sont déterminés. De l'intérieur, donne un grand coup de pied dans les fesses, ils ne bougent pas. Formidable. Tu secoues le cocotier, ils ne bougent pas. Le démon, il arrive, des milliards de démons, c'est... Il bouscule ça, il rentre à l'intérieur de lui. Alléluia, quel bonheur. Ils ne bougent pas. Ils sont déterminés. Ce n'est pas du tout la spiritualité de la descente. Hein? La bouse de vache qui descend. Ce n'est pas du tout ça, pas du tout. On est déterminé par Dieu. On n'est pas déterminé par les phénomènes gravitationnels. Il faut saisir ça. Alors, on est tellement habitué à être indéterminé. Oh là, qu'est-ce que je souffre ? Alors, qu'est-ce que je suis malheureux ? Qu'est-ce que je vois rien ? Etc. Hein ? Tellement d'y en a un, d'avoir peur, d'être angoissé, d'être terrible. Moi, je n'arriverai jamais. Et si ça tombe, si je continue, je vais souffrir encore plus. Je vais encore angoissé. Et puis, de toute façon, ça ne s'arrange pas. Et puis, le Seigneur m'abandonne, etc. Indéterminé, quoi. La girouette, tu sais. Alors, à l'intérieur de leur raison, alors là, girouette, n'en parlons pas, la folle du logis. Hein. Aucune détermination. Ça veut dire qu'on est, on est resté à cause du Yetzer Hara, n'est-ce pas ? Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant qui nous vient de la première métatentation, à cause du mauvais penchant. On se laisse déterminer par la matière. Et la matière n'a aucune détermination. aucune détermination à la matière. La matière, Dieu peut en faire un arbre, Dieu peut en faire une fleur, Dieu peut en faire un rocher, Dieu peut en faire de l'hydrogène, Dieu peut en faire... C'est la forme vient à l'intérieur de la matière. C'est la forme qui donne à la matière ça, son visage déterminé. La détermination ne vient pas de la matière. La matière, c'est ce qui peut être investi par une forme pour avoir, devenir une réalité naturelle. Mais la matière en elle-même est justement source d'indétermination. Sinon, il n'y aurait aucune réalité naturelle. Donc, dire qu'on descend de la matière, c'est du matérialisme dialectique, purement et simplement. C'est du marxisme en mystique. C'est la proclamation mystique de la dialectique matérialiste. C'est terrible. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de philosophie, il ne peut pas piger ça, hein. Saisis pas ça. C'est embêtant. Fais attention parce que les mots, les manières dont on essaie d'expliquer l'homme, Dieu, la matière et la nature, réalisent ce qu'ils signifient. Dieu a créé l'homme pour pouvoir nommer toutes choses. Donc quand on les nomme d'une certaine manière, on rentre dans l'enfer. Ça appartient à la troisième métatentation, la bête de la terre et la bête de la mer, les idéologies athées. On descend de la matière, pas du tout. On ne descend pas de la matière. Le champ de bataille, c'est ça, c'est que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous crée à son image et sa ressemblance, il rassemble les éléments de matière, et du coup, nous sommes fabriqués matériellement, c'est l'extase spirituelle qui saisit la matière corporelle d'origine qui est la nôtre, et on est extase corporellement. C'est extraordinaire de comprendre ça. C'est peut-être la signification la plus radicale, vous voyez, de ce qui est corporel en nous. Ouais, ce n'est pas encore la cellule, là. La vie, du coup, va venir là. Il y a une liée à l'aspect fondamental du corps, que je crois d'ailleurs être le point de vue le plus matériel qui soit, vous voyez. Eh bien, nous sommes extase spirituelle, nous sommes contemplation spirituelle. Ah, nous sommes origine. Tout commence avec l'homme. Tout commence avec nous. Dieu commence avec nous. Dieu termine avec nous. Dieu est avec nous. Je suis. Je suis. Je suis celui qui suis. Et son nom, je suis, parce que je ne peux pas dire autrement, je suis aussi. L'homme est celui qui peut dire je suis dans le je suis. Alors du coup, nous sommes intelligence, voyez. Alors quand la vie commence à venir, voyez, quand le corps commence à s'animer, qu'il commence à y avoir de la vie dans le corps, une vie qu'on commence à percevoir, voyez. Alors cette vie est spirituelle, nous avons une vie spirituelle qui implique donc intelligence, qui implique volonté par rapport à l'amour, intelligence par rapport à la vie contemplative, et mémoire, memoria dei, ticarondei. Mon je suis, dans le je suis du Christ, et mon corps s'en souvient, fondamentalement, même s'il ne m'en rend pas compte. L'un, l'objet de la mémoire, c'est l'un, je suis un. Mon je suis et le je suis de Dieu sont un, vitalement. C'est un trésor, et je démarre avec ce trésor. Ma volonté a pour objet le bien, mais ce bien n'est pas dans ma volonté. Ma volonté est toute attirée par le bien. Alors, elle n'est pas à son objet. Donc ici, l'un s'est bouclé, mais la volonté est ouverte à l'infini vers le bien, et l'intelligence est ouverte à l'infini sur le point de vue de l'être et de la vérité. De la lumière. Alors, voilà ce que Dieu crée au départ dans son acte créateur. Voilà la forme, voilà la nefesh qu'il donne, le neshama qu'il donne dans le corps. Continuellement, vous voyez, mais surtout au départ. Et alors, le processus embryonnaire, qu'est-ce qu'il fait? Et il va. Enfin, le champ de la tentation qui va s'inscrire dans une complexité croissante, si vous voulez, une complexité qui n'est pas complexe pour s'amuser, mais qui va permettre, j'allais dire, à la métatentation vaincue par le Christ, l'Esprit Saint et la Très Sainte Trinité, glorieusement victorieuse de tout en nous, à chasser l'enfer de toute création. Et cette complexité, c'est pour ça qu'il va y avoir une complexité dans notre vie, et il va y avoir donc une vie, tout un aspect, tout un pan entier de notre vie, qui sera une vie sensible. Donc il n'y aura pas que la vie spirituelle, structurée par les puissances spirituelles. Nous aurons aussi une âme, le point de vue de l'âme. Et notre âme, psyché, fait qu'il y a une répercussion psychologique de notre vie spirituelle. De notre vie spirituelle. Il y a une répercussion. Nous avons une vie psycho-spirituelle. Et nous sommes à l'image ressemblance de Dieu, le « Je suis de Dieu » est là, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le Saint, 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 est là, dans la demeure, dans la septième demeure, c'est-à-dire dans le repos parfait, absolu, total. Il trône. Nous sommes le tabernacle du Créateur dans le monde. Et il y a ensuite le corps. Là, donc c'est Dieu qui détermine mes puissances désir est déterminé par leur objet qui est purement spirituel. L'esprit veut déterminer l'âme et l'âme détermine le corps. Et dans le corps, au fond, eh ben, il y a tout un aspect très important. Bon, alors il faudrait regarder évidemment à chaque fois. Bon, à la suite de la mémoire de l'un, dans le point de vue donc sensible de l'âme, eh bien il y a la mémoire, tout le domaine de l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient, tout le domaine de la mémoire sensitive, tous les domaines psychiques, psychologiques, sensibles, vécus, n'est-ce pas, ou le point de vue de l'irascible, du concupiscible, se bouscule. Bon, il va y avoir du côté de la volonté, le point de vue des passions qui vont se bousculer, les passions, les émotions, les fameuses émotions, hein. N'est-ce pas. Bon, là, la puissance qui domine, c'est l'imaginaire. Pour le point de vue de l'intelligence, c'est l'imagination. L'imagination. Ici, du côté de l'aspect paternel de la Très Sainte Trinité qui est en nous, du côté donc de la memoria Dei, du je suis dans le je suis de Dieu, c'est la mémoire sensitive, la mémoire, ce qu'on appelle ordinairement la mémoire. La mémoire, attends, je me rappelle. Oui. Oh, j'ai été blessé. Oh là là, j'ai été blessé. Ma sœur m'a toujours humilié, j'étais toujours humilié, tout le monde s'intéressait toujours à ma sœur, et moi, qui était beaucoup plus intéressante, eh bien, on ne s'intéressait pas à moi, ça était tout le temps comme ça. Et mes frères, n'en parlons pas. Mes frères étaient amoureux de ma sœur, et moi, j'avais le droit qu'on coupe dans les fesses. C'est dégoûtant. Alors, je suis blessé. Mais moi, c'est dans les familles, c'est amusant. C'est tordant. Voilà. Mémoire sensitive. Vous voyez, on a une mémoire sensitive qui où toutes les blessures sont là et puis les événements analogiques se renouvellent. Voilà, l'imagination, la mémoire. Et ici, du côté donc de la volonté, bon, ben, la puissance qui va dominer, c'est la cogitative, c'est le rassemblement, la sensitive, la cogitative. Mais enfin, on peut dire aussi, si vous voulez, le sens commun. Vous voyez, tout se rassemble pour qu'on parte. Pour qu'on parte vers le bien. Bon. Alors, du point de vue du corps, eh ben, il y a, voyez, une structure comme ça, trinitaire en nous. Du point de vue du corps, il va y avoir les sens externes. L'intelligence, dans la ligne de l'intelligence, on sera très sensibilisé au domaine des sens externes, des paroles et les gestes. c'est sûr, le Père profère sur l'extérieur, à la périphérie, une parole. Donc il y a les paroles et les gestes, et puis les sens externes. Voilà c'est extraordinaire. Et tout ça, quand Dieu nous crée, il crée ça dans une unité, de manière à ce que tout, notre parole soit tenue directement, soit proférée directement du « Je suis » de Dieu. Que nos gestes soient, j'allais dire, le doigt même de la rencontre du Père et du Fils dans notre monde, chacun de nos gestes. Le doigt de Dieu est là. Et que nos sens externes soient, j'allais dire, la porte d'entrée de la contemplation de Dieu qui veut assimiler tout l'univers en le contemplant pour pouvoir l'intégrer dans l'amour et dans son « Je suis éternel ». Voilà ce que c'est que l'homme. Et tout ça marche très très bien, dans une unité, dans une harmonie, dans une impeccabilité, dans une grâce d'origine qui fait que le corps est entièrement obéissant à l'âme, l'imagination est entièrement assimilée par l'intelligence, par la contemplation, entièrement au service, et l'intelligence entièrement vivifiée par la présence créatrice du Créateur et de la Très Sainte Trinité. Et voilà ce que les trois métatentations vont venir bousculer. C'est ça, c'est cet espèce d'ordonnancement extraordinaire que les tentations, que la tentation va venir bousculer. Comme vous voyez bien, la tentation ne vient pas nécessairement du démon. Elle vient quelquefois de nous. Elle vient quelquefois de la nature qui elle-même est bouleversée. Elle ne vient pas que du démon. On va avoir aussi des épreuves qui viennent de Dieu. Ce n'est pas des tentations. Ah, ce n'est pas des tentations, justement. Là, on va bien regarder la différence entre l'épreuve et la tentation. Que d'erreurs ne fait-on pas, parce qu'on ne voit pas si ce qu'on est en train de vivre, c'est une épreuve. On ne comprend pas que c'est une épreuve, on croit que c'est une tentation. Mais ce n'est pas du tout une tentation, c'est une épreuve. On ne réagit pas spirituellement, corporellement et psychologiquement et surnaturellement de la même manière à une épreuve et à une tentation. Pourtant, quelquefois, psychologiquement, on a l'impression que c'est une tentation. Ah, c'est le démon que c'est là. C'est pas le démon. Il y a une interprétation inversé de l'épreuve qui nous fait prendre Dieu pour le démon. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux mystico-dingos. Parce qu'ils voient, ah, c'est le Seigneur qui a voulu ça, c'est le Seigneur qui a voulu ça, c'est le Seigneur qui a fait que, c'est le Seigneur qui a fait que, il faut tout. Ah, mais le Seigneur, il n'y est pour rien. On confond le Seigneur avec le démon avec le Seigneur, enfin, c'est pas possible. C'est très amusant. Donc la métatentation, elle vient bousculer ça. Elle va bousculer cet ordonnancement absolument parfait. Voyez. Alors, cet ordonnancement, pourquoi est-ce que cet ordonnancement est parfait? Cet ordonnancement est parfait parce que vous comprenez que ce qui est, c'est l'acte pur, c'est l'énergie, l'énergeia, l'acte pur. C'est l'énergeia de Dieu comme un soleil qui veut se répandre en augmentant à la vitesse de la lumière. Vous voyez, vous imaginez le soleil. Si il augmentait vers nous à la vitesse de la lumière, c'est dans une heure, on est dans le soleil, ça veut dire on est grillé, quoi. Hein? Ça, c'est l'acte de foi, c'est beau. Hein? C'est ça, c'est ça qu'il faut. Alors, il y a un mouvement, c'est ce qui se passe, en fait, en vérité. Mais comme Dieu respecte notre liberté, puisque c'est la liberté, j'allais dire, qui origine le point de vue spirituel, c'est le moindre élément de notre matière, de notre indétermination déterminée par la présence de Dieu. Alors, il donne, ça se transforme non pas en brûlure, inhabitation, etc., possession, détermination, incréée, mais ça se transforme en vivification, vie spirituelle. Et il y a un mouvement, donc toute notre vie, c'est un mouvement, au fond, centrifuge. Et ce mouvement centrifuge, si on est un homme, eh ben, à partir du moment que c'est Dieu, sa part de Dieu, forcément il va partout. Et il va au-delà même, il fait péter le cosmos. Hein. Il fait péter le cosmos. Ça ne s'arrête pas aux limites de l'univers. Vous savez qu'aujourd'hui, on sait, et scientifiquement, et par la révélation, que l'univers est limité. On sait. Donc ça va beaucoup plus loin que les limites, puisque ça doit faire péter les limites. Et c'est chaque acte humain est une bombe atomique. Il y a un mouvement fondamentalement, donc centrifuge. Oui, fondamentalement. Oui. Il faut comprendre la dimension de l'homme. Et le démon, il voudrait nous faire croire que. Quelquefois, il voudrait nous exalter, au contraire. Dans des exaltations vraiment basses, d'ailleurs. et d'autres fois, il voudrait nous voir vraiment. À l'état de bouse de vache. On n'est pas plus que le centre de gravité qui s'étale. Il faut sentir les choses. Il y a un mouvement donc centrifuge, un mouvement centripète. Un mouvement centripète, c'est que Dieu, en nous, il veut, bien sûr, se donner à travers l'homme, à travers moi, au monde entier, et se redonner lui-même à lui-même, si je puis dire. Parce que c'est le mouvement de Dieu de se donner lui-même à lui-même, le Père et le Fils. C'est évident. Mais il veut aussi, il n'est pas seulement don, il est aussi accueil. Et donc, il accueille tout. Il accueille tout. Et donc, il y a un mouvement centripète. Ces deux mouvements, j'allais dire, se stabilisent l'un l'autre parce que la puissance infinie de Dieu qui se donne à travers nous, et la puissance infinie de Dieu qui accueille tout l'univers et lui-même à travers nous, dedans nous, sont également incréés et d'égale puissance, majesté, honneur, voyez, et sainteté. Et c'est pour ça que c'est ça qui fait la stabilité du corps humain. Sinon, si avec le mouvement centrifuge, vous vous rendez compte, on serait comme une espèce de bulle de ballon qui comme ça. L'homme serait un univers en expansion continuellement. Mais comme l'univers ne vit pas spirituellement dans la subsistance de l'image et ressemblance de Dieu, nous on serait là en train de... Ce serait extraordinaire. Et on dirait... Et puis à un moment, on se coincerait dans les limites de l'univers. Ça c'est l'imagination, ça. L'imagination travaille. C'est une des tentations, d'ailleurs. C'est une des méta-tentations, ça, de penser comme ça, n'est-ce pas ? Qu'il n'y a que le mouvement centrifuge ou que le mouvement transcipète. Eh oui. Non, il faut comprendre le champ d'âge. Alors, il y a ça, et comme il y a un état stable, cet état stable n'est pas fait, stable, donc stop. Ah, non, il y a l'instant éternel qui est le nôtre dans l'instant présent, et qui fait que, donc, cette vie de stabilité, comme dit Saint-Denis l'Aréopagite, circule, du coup, en nous. N'est-ce pas ? Nous sommes un être d'éternité, nous sommes des créateurs d'éternité. Dieu crée l'homme, et l'homme créateur. Alors, il y a quelque chose qui circule. Et cette circulation fait passer la memoria dei dans l'intelligence, l'intelligence dans la volonté, l'âme dans l'esprit, etc. Vous voyez ? Et alors se produit ainsi, j'allais dire, comme dans la stabilité, la circulation du sang de l'homme. Eh bien, il y a cette circulation du sang, corps, âme, esprit, fait que l'image de la Trinité ne cesse de rentrer dans une circumincession, une demeurance de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un, etc. Vous voyez ? Et le tout dans l'un. Ouais. Et à ce moment-là, il y a fondamentalement, et ceci dès le départ, de sorte qu'il va y avoir, j'ai pas assez de place sur le tableau, il va y avoir dans cette circulation ce qu'on appelle, ce que le père Thomas Philippe, n'est-ce pas, qui est mort il y a ce sens, appelle la conscience d'amour. La conscience d'amour. La conscience d'amour. J'aurais dû le mettre ici. La conscience d'amour, c'est cette circulation qui fait que c'est dans le Père que tout est un, puisqu'il est origine. Il fait circuler le Fils dans l'amour jusqu'à revenir en lui, et ça fait cette conscience d'amour. Cette conscience d'amour, j'allais dire, c'est la conscience qui résulte de l'unité vivante du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans ma mémoire de Dieu. C'est ce qu'on appelle, au fond, moi, ordinairement, j'appelle ça, moi, l'innocence divine. Hein. Donc, l'innocence divine, conscience d'amour. Alors, ça, c'est dès le départ. Il y a la conscience d'amour. Et petit à petit, on prend conscience de cette conscience d'amour par la conscience de raison. Conscience de raison. Il faudra qu'on regarde. La prochaine fois, il va falloir qu'on regarde tout ça. Hein. Conscience d'amour. Conscience de raison. Et cette conscience de raison me permet d'habiter le monde dans lequel je suis. Et je suis de plus en plus dans une conscience incarnée, conscience sensible. Conscience sensible. Alors en réalité, vous voyez, la conscience d'amour est très proche ici. Ah, si j'avais eu une autre couleur, je serais mis au fond. La conscience d'amour est très profondément inscrite dans la détermination, notre circulation d'amour. Vous voyez ? Avant qu'il y ait les parties corporelles qui puissent déterminer des puissances d'imagination, des parties corporelles qui puissent déterminer des puissances de mémorisation, des parties corporelles qui puissent... Donc, c'est déjà dès la période pré, ce qu'on appelle aujourd'hui, malheureusement, pré-embryonnaire. C'est pas... Mais enfin, pré-embryonnaire, ça m'est égal. Puis après, quand les sens externes sont là, quand il y a une perception, quand il y a une relation avec les autres, cette conscience d'amour va se développer. Et à un moment donné, donc, notamment à l'âge de raison, la conscience de raison, vers l'âge de 6-7 ans, la conscience de raison va émerger. Va émerger. Conscience de raison. Va émerger. Et enfin, lorsque le corps va se former pour la vie, pour être source de vie, eh bien, il va y avoir la conscience sensible. Voilà les trois zones de la circulation. De la circulation. Donc, il y a en nous cinq grands mouvements. Un mouvement centrifuge, un mouvement centripète et trois mouvements circulaires. C'est une manière de dire, hein, vous voyez bien. Je m'excuse, quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais attendez, mais je n'ai jamais vu ça dans le catéchisme. Mais c'est dans le catéchisme, est-ce que c'est dans le catéchisme, du nouveau catéchisme de l'Église catholique, ça? Je dis non. Oh non. Non, c'est pas dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est dans l'écriture. C'est incroyable l'angoisse, hein. Les fausses sécurités. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que le catéchisme de l'Église est faux, hein. En tout cas, ce n'est pas une sécurité, ça j'en suis sûr. Et si j'en fais une sécurité, alors la finalité du catéchisme, c'est inversé. C'est un bras de levier pour nous montrer que la parole de Dieu change tout. C'est tout. Oui. Donc voilà l'harmonie parfaite, voilà la circulation parfaite, voilà... L'image-ressemblance de Dieu, j'allais dire, incarné, qui est chacun d'entre nous, que voilà le champ de bataille dans lequel va s'introduire le doute, va s'introduire le mensonge. La tentation pénètre par... Alors, ça dépend. La petite tentation, uranium. La petite tentation. Rentre dans la bouse de vache très molle, parce que ça s'est ramolli à cause du péché originel, parce que j'en ai marre, parce que je suis fatigué, parce que je ne prie pas, parce que je ne fais pas pénitence, parce que je ne suis pas dans l'union transformante, je ne fais plus horizon, parce que je suis attaché à des avoirs, et pas du tout à l'être. Je suis. Je suis mon imagination. Je ne suis pas, je ne fais que suivre mon imagination. Donc, alors je suis mou. Alors du coup, le mensonge atteint l'imagination. Ça, c'est l'uranium, c'est la petite tentation, ça. Ce n'est pas la méta-tentation. Justement, ce serait amusant de regarder en fonction de ce champ de bataille, là où pénètre chacune des méta-tentations. Et ce serait très beau de voir ça. Et ce qui est très amusant, c'est que, alors, l'imagination frappe, et tout de suite, l'imagination frappe. est frappé par un mensonge, et dans le péché originel, c'est pas l'imagination qui est frappée. Le démon n'a pas accès à l'imagination d'Adam et Ève. Il ne peut pas pénétrer, il ne sait pas, il ne comprend pas. Il ne comprend rien à ça. Rien. Il ne sait pas comment on fait avec ce mec. Avec la femme, il a compris, peut-être c'est plus facile. Non, mais c'est sûr qu'avec la femme, il a compris que c'était plus facile. Parce que dès qu'il y a eu la femme, il a compris, tiens, là, ça va être plus commode. Beaucoup plus commode, c'est plus mou. Mais oui, c'est plus mou. Pourquoi ? Ça va rentrer plus mollement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont deux. Ah, donc je peux mettre entre les deux. Alors, ce sera plus facile. C'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que ça fait le deuxième. Ah, mettre entre les deux. Et je dis, aimez-vous les uns les autres, hein. C'est extraordinaire. Et alors, il va parler, il va se mettre de l'extérieur. Pourquoi est-ce que la tentation originelle, comme dit saint Thomas d'Aquin, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement fait une suggestion, dit, bon, voilà, je vais faire le péché originel. Je vais me séparer de Dieu, je vais faire un petit peu ma petite volonté pour, quand même, mon Dieu ne m'en voudra pas. Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une petite suggestion à l'intérieur d'Ève? Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu une discussion, elle a vu ce mec, hein, enfin, elle a vu un bois pour... sur un arbre, et puis elle a, mais attention, vous avez, même là-dessus, je vois les notes en dessous, des dominicains, notes des dominicains, oui, il ne faut pas, évidemment, aujourd'hui, il nous est impossible de suivre aujourd'hui le récit de ce mythe, puisqu'il n'est que mythe, mais il faut voir, et il est intéressant de regarder ce que saint Thomas en retirait dans ses déterminations, un mythe. C'est pas un mythe. C'est écrit sous une forme mythologique. Mais tout ce qui est exprimé à travers ce récit mythique est vrai. Et notamment le point de vue des relations. Le point de vue. Or là, la relation qu'il y a entre Ève et le démon est une relation totalement extérieure à toute son intériorité et à tout le champ de bataille de la femme. Il ne peut pas pénétrer. C'est impossible. C'est pour ça qu'il est une puissance. Il fallait qu'il se fasse une violence incroyable pour rentrer dans le péché originel. Le tout était en plus tenu par la grâce originelle et la grâce sanctifiante, 5 et 2, 7. Donc il y avait un double mouvement supplémentaire. Donc tout ça, c'était tenu. Il faut compter en plus qu'ils avaient en plus des dons préternaturels supplémentaires. Ça fait 8. Mais ça, je vois pas, j'arrive pas à déterminer le mouvement, je n'en ai jamais eu l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'il est extérieur. Il est à l'extérieur, et puis il parle, il bouge, il attire l'attention, et elle voit. Voyez ? Au lieu de voir la substance même de Dieu, elle voit l'extériorité d'une agitation extérieure. Et puis, elle, il y a une parole qui est prononcée, du coup. Donc, elle voit. Voyez, et dans le sens inverse de la circulation qui est la sienne, dans le sens inverse de la circulation qui est la sienne, il lui parle. Alors, elle fait un geste. Et ça se boucle dans le fait que, du coup, comme elle a fait un geste et qu'il y a la machinerie est unie, que... quelque chose qui s'introduit, elle veut retrouver et être dans son geste extérieur Dieu. Alors ça rentre, le péché originel est consommé, parce que il va être consommé seulement quand Adam fera pareil. Hein. Vous voyez ici, il y a un processus qui est très amusant, c'est très, très amusant de voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre grâce à ce champ de bataille. Mais vous voyez ici, simplement, c'est pour nous, petite tentation, l'imagination, c'est tout de suite l'imagination. Parce qu'on est orgueilleux, hein? Orgueil. C'est l'imagination qui va avoir une petite suggestion. Le démon ne peut pas pénétrer dans le point de vue du corps spiritualisé, il ne peut pas pénétrer dans notre inconscient, il ne peut pas pénétrer dans notre subconscient, il ne peut pas pénétrer dans notre dans nos blessures, mais il peut rentrer dans l'imagination. Et de l'imagination, faire, si circuler en sens inverse la conscience sensible ou la conscience de raison, et finalement, là où il est victorieux, la conscience donc d'amour, et que l'innocence donc aggrave la crucifixion de son innocence. Et à partir de là, les puissances de l'âme spirituelle elle-même vont donner leur adhésion au péché. Donc il y a ici ça c'est au niveau de la structure, mais on va regarder la prochaine fois. Oui. On va regarder la prochaine fois quel est le grand processus dans ce champ de bataille. Ça c'est ce qui marche bien. Donc qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se produire quand la tentation va pénétrer par ici? Elle va introduire, c'est un mensonge extérieur qui s'introduit dans mon imagination et qui transforme mon imagination en imaginaire. Et qu'est-ce qui va se passer exactement dans ce merveilleux ordonnancement? Quelle sera la décomposition? Quelles seront les fragilités? Et comment vont apparaître donc les diverses caractéristiques de notre état dans la tentation? C'est ce qu'on verra au fond la prochaine fois. On essaiera de voir ça la prochaine fois, du mieux qu'on pourra. Voilà. Mais je vais malheureusement être obligé de reprendre ce tableau, donc on sera obligé de refaire ce tableau, ou alors je le ferai un petit peu avant pour gagner du temps, quoi. Voilà. Mais on essaiera de prendre, comme ce sera en plein carême, il n'y aura pas de croissant. Donc ça tombe très bien, donc, après la messe tout de suite, on prendra juste un verre de lait froid, ou un verre d'eau. Bon. Et tout de suite on attaque. Je vous rappelle ça rapidement, très rapidement, et on regarde, ça c'est champ de bataille, première partie, champ de bataille, deuxième partie, nous ne sommes pas dans cet état merveilleux actuellement. Non, nous ne sommes pas dans cet état merveilleux, nous sommes dans un autre état, qu'on va regarder la prochaine fois, et c'est dans cet état-là qu'on est confronté à la tentation. À partir du moment où on aura cette structure dans la tête, on pourra lire le péché originel, les tentations du Christ et la métatentation d'Apocalypse.